S'il y a une chose que les Israélites savaient, et dirais-je, savent toujours bien faire, c'est la fête. J'en suis aujourd'hui au chapitre 23 du livre du Lévitique qui traite des nombreuses fêtes qui ponctuaient la vie de la nation d'Israël. Celles-ci ont pour la plupart une dimension prophétique. La Pâque juive, la fête des pains sans levain qui la suivait, formaient un tout de 8 jours. Dans cet ensemble, il y a forcément un samedi, le sabbat. Le jour qui le suit est donc un dimanche et la célébration des premiers fruits de la nouvelle récolte. En signe de reconnaissance pour les bénédictions divines sur l'ensemble de la moisson qui s'annonce et qui vient tout juste de commencer, le peuple d'Israël apportait une gerbe de leur première récolte céréalière au prêtre. Celui-ci faisait un geste rituel de présentation devant l'Éternel. La valeur prophétique de cette fête des premiers fruits est importante au vu de l'enseignement du Nouveau Testament. En effet, d'après l'Évangile, Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, ce qui correspond à ce dimanche où le prêtre faisait la présentation rituelle de la première gerbe. De plus, l'apôtre Paul appelle le Christ les premiers fruits dans un texte que je cite. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Fin de citation. La fête juive des premiers fruits annonçait donc la résurrection du Christ qui est les premiers fruits, les prémices de la résurrection du peuple de Dieu et donc de la mienne et, j'espère, de la vôtre aussi. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de la vie éternelle pour tous ceux qui lui font confiance. Après que la première gerbe ait été offerte à l'Éternel, avait lieu la récolte proprement dite, celle des bons grains mûrs et bien ronds. Cette moisson a, elle aussi, une valeur prophétique. Elle préfigure l'ensemble de tous les croyants de tous les temps qui, lors de la fin des temps, seront rassemblés en une immense gerbe par les anges dans le grenier de l'Éternel. Je parle bien sûr du royaume des cieux, comme le précise bien la parabole du bon grain que Jésus donne dans l'Évangile et que nous avons vu lorsque j'ai couvert Matthieu. Je continue le texte du Lévitique. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kilos de farine pétrie à l'huile qui, consumée par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'un litre et demi de vin. Avant ce jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations partout où vous habiterez. Versets 12 à 14. Les Romains, eux aussi, ouvraient la moisson en offrant des sacrifices. Cet hommage de reconnaissance et de dépendance avait également lieu de la part du peuple de Dieu. Le jour de la présentation de la première gerbe par le prêtre, celle-ci était donc accompagnée d'offrandes végétales et d'un holocauste, signe de consécration des Israélites à leur Dieu. Il n'y avait pas, par contre, de sacrifice d'expiation, ce pour les péchés du peuple, parce que cette fête des premiers fruits annonçait la résurrection du Christ. Cela sous-entend bien évidemment que sa mort avait déjà eu lieu et donc réglé la question de la culpabilité de l'homme. Le texte précise que les Israélites ne devaient pas commencer à dévorer leur récolte avant que la première gerbe n'ait été offerte au Créateur, au Seigneur du ciel, qui fait luire le soleil, arrose la terre et fait pousser nos récoltes. C'est, me semble-t-il, cette même attitude de reconnaissance qui est exprimée par la prière de remerciement que certains croyants offrent à Dieu avant de commencer un repas. Je continue le texte. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Versets 15 à 16. L'ensemble de toutes ces ordonnances comprend en fait 3 prescriptions. Tout d'abord, celle de la première gerbe à offrir à Dieu. Ensuite, une offrande très conséquente à présenter 7 semaines plus tard lors de la fête dite de Pentecôte qui clôt la moisson. Ainsi qu'une recommandation de laisser des épis sur place pour les pauvres. Voilà donc les 3 ordonnances. Le texte nous donne une séquence chronologique bien ordonnée. D'abord la Pâque, qui préfigure le sacrifice du Christ, puis la fête des premiers fruits, qui symbolise sa résurrection, et maintenant, en troisième lieu, la Pentecôte, mot qui veut dire 50, et qui a lieu 50 jours après Pâques, comme chacun sait. Il y avait un rapport si étroit entre cette fête de Pentecôte qui clôturait les récoltes et la célébration des premiers fruits qui en marquaient le commencement, qu'elles ne se distinguaient guère l'une de l'autre. Pour la Pentecôte, le prêtre devait également faire, au nom du peuple, une présentation de céréales devant l'Éternel, sous forme de gerbe. Dans nos pays de culture judéo-chrétienne, on célèbre la Pâque, la Pentecôte, et autres fêtes religieuses par un jour férié, sans plus trop se soucier de leur signification religieuse. Du temps où les enfants allaient régulièrement au catéchisme, ils savaient tous que la Pentecôte avait lieu 50 jours après Pâques. Ce qui est un peu moins connu, c'est que historiquement, la Pentecôte fut aussi le jour qui débuta l'Église de Jésus-Christ. Nous pouvons en effet lire des passages dans le Nouveau Testament qui l'attestent. Après la résurrection, le Christ a dit à ses disciples, et je le cite, « Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Fin de citation. Ces paroles furent littéralement accomplies le jour de la Pentecôte. Je lis le texte correspondant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Fin de citation. Le Saint-Esprit a donc rempli les disciples de sa présence 50 jours après la résurrection du Christ. Donc, en définitive, la fête de la Pentecôte juive qui correspondait à la fin de la moisson, annonçait prophétiquement le début de l'Église et donc le début de la Nouvelle Alliance, puisque l'Ancien Testament, c'est la même chose que l'Ancienne Alliance. À la veille de sa mort, lorsque Jésus a célébré la Pâque juive avec ses disciples, voici ce qu'il a dit. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Fin de citation. Je continue le texte du Lévitique. Vous apporterez des lieux où vous habitez, deux pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Verset 17. Ce jour de la fête de la Pentecôte, les Israélites devaient apporter une nouvelle offrande qui consistait non en céréales, mais en pain. Ce qui, ma foi, était compréhensible puisque la moisson était terminée. On pouvait alors facilement faire de la farine, la pétrir et l'utiliser pour confectionner toutes sortes de bonnes choses. Ces pains, tout comme les gerbes, étaient formellement et rituellement présentés devant l'Éternel. Ils étaient tout simplement cuits à la maison et offerts par le prêtre au nom de la communauté israélite. Cette offrande était composée de pains levés et préfigurait le commun des mortels qui habitait l'Empire romain et à qui l'Évangile serait présenté par les apôtres. En effet, lorsque l'Église est née, les disciples du Christ ont commencé par annoncer la personne de Jésus à tous ceux qui se trouvaient là de passage à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques. Ils provenaient véritablement de tous les coins de l'Empire, comme l'atteste ce passage suivant. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies ?» Fin de citation. Je continue le texte. « Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et 2 béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. » Verset 18. L'offrande des pains est un hommage de reconnaissance. À ceci doivent s'ajouter, comme dans le cas de la gerbe des premières récoltes, un holocauste national en signe de consécration du peuple. Les victimes sont dans ce cas particulièrement nombreuses. Et cela convient, ma foi, tout à fait à un peuple qui vient de remplir ses greniers avec les dons de la terre et donc les dons de leur Dieu. Je continue. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les 2 agneaux et reviendront au prêtre. Verset 19. Le sacrifice d'expiation, donc pour les péchés, est un rappel au peuple qu'il demeure coupable et commet fréquemment des fautes. Ce qui était vrai pour l'Israélite d'alors l'est aussi pour moi aujourd'hui. Par cet ensemble de rites, toute la moisson, depuis les premiers épis d'orge jusqu'au dernier de froment, se trouve placée sous la bénédiction de l'Éternel. Et le pain quotidien de chaque famille israélite devient un pain qu'elle reçoit de son Dieu et qu'elle partage avec lui. La Pentecôte était une occasion pour les Israélites de se réjouir des bienfaits du Seigneur qui pourvoit à tous leurs besoins. Elle était caractérisée par beaucoup d'offrandes et d'immolations d'animaux. Toutes préfiguraient encore et toujours le sacrifice unique du Christ. C'est à cause de la croix qui fut suivie de la résurrection que l'Église a pu voir le jour. Aujourd'hui, les croyants sont conviés à s'appuyer sur Jésus-Christ pour tous leurs besoins. Non seulement j'obtiens la vie éternelle si je viens à lui, mais je bénéficierai aussi de son aide concrète, de son amitié, de réponse à mes prières, de sa miséricorde et du réconfort dans les moments difficiles de l'existence. Je continue le texte. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Versets 21 à 22. Ces recommandations ont déjà été faites, mais elles sont rappelées en passant. La moisson doit être sanctifiée, non seulement par des offrandes de céréales et d'animaux, mais aussi par la bonté, la bienfaisance à l'égard des pauvres du pays, qu'ils soient israélites ou étrangers. L'Éternel, le Seigneur de toutes choses, est un Dieu très pratique. Même s'il a créé les cieux et cet univers si vaste, il demeure très terre à terre. Le peuple d'Israël avait un devoir d'aide vis-à-vis des moins privilégiés. Il en est de même d'ailleurs pour les chrétiens aujourd'hui, comme l'attestent plusieurs passages du Nouveau Testament, dont celui-ci que je lis. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit » sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. Fin de citation. Bien sûr, il n'y a pas que la pauvreté matérielle qui est à prendre en compte. Nous savons tous qu'il y a des détresses bien plus douloureuses que le manque d'argent, et il est inutile d'en faire la liste accablante. Le chrétien, digne de ce nom, a donc une double responsabilité. Il se doit de présenter la personne de Jésus-Christ et expliquer la signification de la croix à tous ceux que Dieu place sur son chemin. Mais il a aussi l'obligation de venir en aide de façon tangible et dans la mesure de ses ressources à toute personne qui se trouve dans la souffrance. Le Nouveau Testament donne d'ailleurs une définition de ce qu'est la vraie religion. Je la cite. Si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde. Fin de citation. Je continue le texte du Lévitique. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur. Le premier jour du septième mois sera pour vous un grand jour de repos et, pour vous rappeler à mon souvenir, de sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Versets 23 à 25. On retrouve ce chiffre 7, si courant dans les Écritures, et cette mention du septième mois est très importante, car avec trois fêtes, ce mois est un peu considéré comme un mois de sabbat. D'ailleurs, le calendrier juif comporte aussi une année sabbatique. Tout comme la Pâque marquait le début du calendrier religieux, ce septième mois débute le commencement de l'année civile. Le premier jour est en fait une nouvelle lune qui est marquée par une ordonnance spécifique parce qu'elle ouvre le mois au cours duquel se célébraient trois fêtes, dont ce grand jour solennel des expiations ou Yom Kippour. C'est là la raison pour laquelle ce septième mois était si important et le premier jour de ce septième mois si cérémonial. Depuis leur retour d'exil vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs célébrèrent ce premier jour du septième mois comme leur nouvel an. Mais ici, dans le texte, rien de semblable n'est suggéré. Dans le texte que je suis en train de commenter, il est question de trompette. L'Éternel dit, « Pour vous rappeler à mon souvenir, ce sera un grand jour de repos et de sonnerie de trompette. » Tout au long des textes sacrés, depuis les écrits de Moïse jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, on trouve fréquemment la mention de trompettes qui retentissent. Elles étaient utilisées pour diverses circonstances, dont les guerres. C'est ainsi qu'on en rencontre sept dans l'Apocalypse. Elles retentissent à intervalles réguliers tout au long de cette période terrible de jugement de la fin des temps qui s'appelle la Grande Tribulation. Nous verrons cela en détail le moment venu. Pour l'instant, il suffit de savoir que ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ n'auront pas à subir le jugement terrible de l'Apocalypse. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.